Est-ce que vous iriez nettoyer des montagnes qui sont sales parce que trop d'alpinistes savent pas vivre puis ils redescendent pas leur cochonnerie? C'est le défi que se sont lancés mes invités, qui sont des alpinistes, qui sont des passionnés de la montagne et qui ont décidé de faire un geste, de faire œuvre utile finalement pour l'environnement. Isabelle Lauzier et Dominique Asselin sont avec moi. Merci d'être là tous les deux.
Merci.
Isabelle, vous êtes membre fondatrice de High Altitude Mountain Cleaner. Mm-hmm. Donc, c'est nettoyer de montagnes, de haute altitude. On parle ici des sommets de l'Everest, de grandes montagnes comme ça qui sont assez épiques. Mm-hmm. Dominique Asselin, vous êtes guide de montagne depuis une quinzaine d'années. C'est votre métier, c'est ça? Au moins une quinzaine d'années.
Oui, ça doit faire maintenant 15 ans que je le fais professionnel. Oui.
Voilà. Vous êtes donc vous aussi membre fondateur de ces nettoyeurs de montagnes. Qu'est-ce qui vous a amené, là, je viens de le dire, en gros, devant les cochonneries que les gens laissaient quand vous faisiez des expéditions, vous vous êtes dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais ça remonte à quand exactement cette espèce de déclic, Isabelle?
En fait, c'est quand Dominique est parti avec des clients en 2018 faire une expédition commerciale d'Attitude Montagne. En fait, ça a été frappant de voir pour eux, autant Dominique que l'équipe, qu'il y avait des déchets qui étaient laissés là sur les camps avancés sur la montagne, mais aussi qu'il y avait des cordes fixes qui étaient en place depuis à peu près des décennies, mais sur lesquelles, des fois, ils s'accrochaient, donc avec une poignée pour monter, et finalement, ils arrivent, puis ils se disent « OK, elle est sectionnée, donc gang, on change de cordes, mais c'est laissé sur place. C'est pas valorisé de nettoyer ces montagnes-là. C'est pas valorisé de faire attention à l'équipement qui est sur la montagne. Donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, il y a un non-sens. On fait ça parce qu'on aime ça, ça nous fait vivre, mais finalement, on scrappe l'environnement pour les générations futures.
Donc, qu'est-ce que tu as pu voir, Dominique, sur place? Là, décris-nous des objets qui étaient laissés là, des déchets.
Ben, on voit les réguliers sachets de nourriture de toutes sortes qui sont laissés là. Mais dans les plus absurdes qu'on a pu trouver, il y avait des gens qui ont monté des bouteilles d'alcool qui étaient à moitié pleines, donc qui avaient été abandonnées, des couches souillées, donc sûrement des personnes qui avaient été malades. J'imagine une gastro, peu importe. Donc, ils avaient monté des couches. Une fois rempli, c'est plate à redescendre, donc ils les ont cachés.
Ou des couches, parce que est-ce que ça se peut qu'il y ait des alpinistes? Parce que c'est pas évident là, de faire ses besoins quand on est en ascension.
Ouais,
comme
souvent,
ça, il y en a qui se disent, bon, je vais porter une couche. Puis,
Au lieu de me lever la nuit, de m'habiller puis de sortir, oui, ça aussi, ça peut être possible.
Mais au moins, redescends là, c'est ça que tu as envie de dire, hein, c'est ça?
C'est drôle, encore dernièrement, sur les réseaux sociaux, il y avait quelqu'un qui a fait un super vidéo au sommet de cette montagne-là, qui avait l'impression d'être vraiment une personne exceptionnelle. Qui jouait au golf. Donc, il lançait des balles de golf du haut du sommet. Qui j'imagine, il n'a pas pris le temps de les récupérer. On est rendu un peu là, on dirait pour faire un statement ou pour faire une action un peu plus exceptionnelle que les autres, on est prêt à couper un peu les coins ronds.
Avoir des vues sur Facebook...
C'est fou, pareil.
Ça, ouais.
Surtout qu'il y a de plus en plus, il y a l'explorateur Bernard Voyer, qui est un ami de cette émission, qui me racontait il n'y a pas si longtemps à quel point il était découragé, puis il l'a même dit publiquement après, à quel point il était découragé quand il montait l'Everest. Il dit c'est rendu une poubelle, le Mont-Blanc. Il y a de plus en plus de montagnes comme ça qui sont c'est des sommets qui sont mythiques. Là. L'Everest, là, je pense que c'est devenu... C'est un sommet mythique, mais c'est rendu que ça fait quasiment la queue pour monter, la queue pour descendre. Ouais. Je veux dire, il y a du gros trafic. On se demande comment ça se fait, d'ailleurs. C'est ce que tu fais, toi, guide de montagne, t'amènes des gens dans les montagnes aussi. Il y a cet exploit individuel qui fait qu'on veut à tout prix y aller, mais on est comme un consommateur. On comprend pas le...
C'est un mélange de deux choses. Hein? Donc oui, le but de faire de la montagne, c'est de se dépasser, d'aller plus loin, de se sentir un peu, sortir de notre zone de confort. Mais en même temps, c'est d'être capable de le partager devant les médias sociaux, devant Facebook et tout ça. Donc les gens, ils se confrontent entre le « j'ai envie de me surpasser », mais en même temps, j'ai envie de pouvoir dire aux gens que j'ai réussi quelque chose d'exceptionnel. Et donc souvent, ils sont prêts à couper un peu les coins ronds ou à... laisser aller un peu leur éthique à ce niveau-là.
Isabelle, racontez-moi une expédition, là, par exemple, que vous avez faite.
Ben, moi, en fait, j'ai fait une expédition qui était pas au Népal, en fait, donc c'était pas des cordes fixes. C'était au Pérou, donc dans un... dans le fond, dans un mode plus alpin qu'on appelle. Donc, j'ai pas été confrontée, comme Dominique, à cet environnement plus touristique de la montagne, si je peux le dire comme ça, parce que le Népal, ça l'est vraiment beaucoup. Donc, ce que j'ai vécu, moi, c'est le beau côté, peut-être, de la montagne, dans le sens que des grandes pentes encore vierges, blanches et tout, où les alpinistes s'encordent ensemble plutôt qu'être sur des cordes qui sont déjà fixées sur place. Donc, c'est ce que j'ai vécu pour l'instant. Donc, en fait, j'ai vécu le beau côté. Dominique a vécu un côté un peu plus difficile, peut-être, de ce qui nous passionne. Donc, maintenant, ça va être mon tour, mais d'y aller dans une expédition où je vais pouvoir contribuer, en fait, à laisser un petit quelque chose de mon passage.
Bon, en fait, surtout à ramasser quelque chose. Racontez-nous comment ça va se passer.
Ben dans le fond, le projet, on doit récupérer sur les quatre camps. On a calculé à peu près 1500 livres de poubelles qui doivent être descendues et environ 4500 mètres de cordes fixes qui ont été abandonnées au courant des années. Donc, on a établi la zone en quatre différentes phases. Donc, on va nettoyer une zone et pour être sûr que le problème ne redevienne pas le même dans une période de temps trop courte, on installe des ancrages. Donc, on drille des nouveaux ancrages dans la roche pour installer des nouvelles cordes. Et donc, on a séparé en quatre phases et on a séparé un peu les équipes là, en différentes unités, je veux dire, de travail. Donc, il y a certaines personnes qui vont être spécialisées sur le nettoyage des camps et s'assurer qu'au niveau de la logistique, bien, qu'on puisse recevoir nos équipements sur l'itinéraire de façon constante. Donc, que ce soit les ancrages, les cordes, des choses comme ça. Une fois que l'équipement est retiré, l'autre volet, qui est un autre volet assez important, c'est le retrait. Donc, il faut les redescendre jusqu'au camp de base pour s'assurer que le gouvernement puisse les envoyer, on espère, dans un centre de tri qui vont pouvoir être soit revalorisés ou du moins éliminés de façon efficace.
Et vous allez descendre combien de kilos?
Donc, c'est ça. Fait qu'en livres, on calcule à peu près 1500 livres d'équipement à redescendre.
À quatre ou à combien vous êtes?
Bien, au début, on était supposé avoir trois porteurs népalais qui allaient participer entre le camp de base et le camp 1 pour redescendre les déchets sur la zone qui est peut-être moins technique. Malheureusement, on n'a pas réussi à ramasser autant d'argent et avoir autant de commanditaires qu'on voulait. Et donc, on a été obligé de couper à seulement un porteur et le reste du travail va être effectué possiblement par nous.
Oui, Isabelle?
Donc, c'est ça. Donc, on va, ça va être toute une idée de logistique. Déjà, une expédition normale sur une montagne, c'est beaucoup de logistique.
C'est quelque chose,
exact.
Ouais.
Donc, on a des portages pour aller sur les camps avancés, pour aller porter de l'équipement. On redescend, histoire de s'acclimater et tout ça. Puis maintenant, on ajoute aussi un défi encore plus physique, je pense, à ce qu'on va faire. Autant Dominique va percer des trous dans la roche pour poser des ancrages. Il va falloir on a beaucoup de batteries à transporter parce qu'évidemment, ces perceuses-là, il faut les recharger. Inévitablement. Puis malheureusement, Hydro-Québec s'est pas encore rendu sur la Madame Lane. donc c'est tout un défi logistique, physique et un beau casse-tête.
Mais c'est dommage que vous ayez pas assez de commanditaires pour ce genre. C'est quand même une expédition, je trouve, environnementalement parlant, qui est porteuse. Il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. En tout cas, moi, je trouve que c'est inspirant.
Mais tu sais, ce qu'on réalise, c'est que les gens, tu sais, les compagnies ou les bailleurs de fonds, ce qu'ils veulent, c'est des images glamour. C'est qu'est-ce qui est beau à regarder, qu'est-ce qui est beau à voir. Donc, quelqu'un qui est au sommet d'une montagne pristine.
Puis qui descend des poubelles.
Ouais, c'est un peu moins beau. On s'est fait dire par certaines grosses compagnies qui œuvrent dans le domaine du plein air puis qui ont quand même un gros volet environnemental. Ah, mais on n'a pas de magasin au Népal. Là, j'essayais de leur expliquer la problématique de ces montagnes-là. C'est pas des Népalais qui la créent, c'est des consommateurs occidentaux, européens, américains. Qui vont dans ces sommets-là, puis qui, par leur action ou la façon qu'ils veulent le faire, vont faire en sorte qu'ils deviennent souillés. Donc, c'était un peu une façon de possiblement me dire non d'une façon polie. Mais on reste encore avec ce problème-là.
Mais on va se le dire aussi, les montagnes, on n'est plus dans le temps des premières ascensions.
Non.
Donc, pour nous, il y a un non-sens à valoriser juste l'exploit de gravir une montagne plutôt que de valoriser son ensemble de redes.
C'est exact. Maintenant, il faut faire plus que ça. Mm-hmm. Il y a tellement de monde qui le font. Ouais. Maintenant, c'est devenu quasiment ordinaire.
Mais souvent, je le compare un peu au marathon.
Ouais.
On regarde des gens qui courent un marathon. À la fin d'un marathon, pour sauver 5 secondes sur leur chrono, on sait qu'ils ne vont pas finir premier, mais pour sauver 5 secondes sur leur chrono, ils sont prêts à jeter leur sachet de gel au lieu d'aller porter à la poubelle.
Ouais, c'est épouvantable.
Pourtant, à la fin du marathon, il y a plein de déchets. Puis on dit, ces personnes-là ne sont pas sur le point de mourir. La seule raison pourquoi ils le font, c'est leur accomplissement personnel. C'est pour dire, oui, mais je l'ai fait 5 secondes de moins.
Ou les bouteilles d'eau en plastique.
Ouais, les bouteilles d'eau en plastique.
Ouais. Mais c'est fascinant. Dans le fond, c'est l'exploit individuel qui prend encore le dessus sur l'environnement. Là. C'est comme si on a de la misère à être conscientisé par ça.
Ben, si on regarde la chose en ce moment qui valorise, c'est la valorisation personnelle.
Mm.
Si on regarde quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai pas réussi mon sommet, mais j'ai redescendu mes poubelles », versus quelqu'un qui dirait « Hey, moi, j'ai réussi tel sommet. »
Mais j'ai laissé un gros tas de cochonneries derrière moi.
Mais habituellement, elle va pas le dire ou ça va pas faire partie du discours.
C'est sûr.
Et c'est certain que la personne qui a fait le sommet va avoir plus de « Wow, c'est beau ce que t'as fait » que la personne qui a dit « Hey, moi, j'ai décidé de retourner parce que j'arrivais à un point où je n'étais plus capable de faire l'ascension. Sinon, il fallait que j'abandonne des choses sur la montagne. Ben, souvent, les commanditaires ne vont pas courir après cette personne-là. Il ne va pas avoir autant...
Mais l'expédition zéro déchet, ça doit exister, je ne peux pas croire. Non, Isabelle?
Ben, moi, je pense que... J'en ai pas entendu parler en tant que tel, mais on se rend compte, même nous, en préparant cette expédition-là, que c'est extrêmement difficile de le faire dans un mode zéro déchet.
Ouais.
Parce que, ben, évidemment, le poids est un facteur immense, parce qu'on doit tout trimballer sur nos épaules. Donc, mais aussi l'énergie donc, qu'on doit avoir, donc la nourriture. Tout est quasiment en sachet individuel. La nourriture lyophilisée, c'est tout en sachet presque individuel.
Ouais.
Les barres énergétiques, en sachet individuel. Puis oui, on aurait peut-être pu s'embarquer si on avait eu des heures et des heures de plus dans notre semaine de faire tout nous-mêmes. Mais à un moment donné, c'est bon, la fraîcheur, ce qu'on peut apporter aussi, transporter en avion et tout. Donc, je me suis occupée plus du volet nourriture, puis quand j'étais devant le fait accompli de voir tout ce qu'on avait, mais qui était tout en sachet individuel, je me suis dit, aïe, aïe. Même nous, tu sais, même moi...
Où est-ce qu'on va mettre ça?
C'est ça. Au moins, nous, on va les descendre. Ouais. C'est le but de notre truc. Mais ça fait mal parce que c'est que des sachets.
Ouais.
Donc, puis là, on s'est dit, bon, ben ultimement, peut-être qu'avec l'OBNL, on pourrait aller dans le recherche et développement, d'essayer de voir, de créer des... En fait, si un jour on a des sous, de créer... donc, c'est ça, d'avoir un fonds pour des sachets...
Développer ça, ouais.
Développer des sachets biodégradables ou en tout cas, du moins, qui laissent moins de traces, au final, là, sur la montagne.
Oui, parce que c'est du gros plastique, hein, les sachets. C'est une espèce de plastique, d'ailleurs, avec une...
Avec de l'aluminium à l'intérieur.
Oui, avec de l'aluminium à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose, vraiment. Ouais. On va s'arrêter ici, très courte pause. J'ai hâte d'entendre mes auditeurs là-dessus. D'abord, premièrement, moi, ça m'interpelle, du monde qui vont nettoyer des montagnes parce que les autres qui sont passés là avant, on laissait des gros déchets. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de faire des corvées nettoyage comme ça, l'environnement. C'est un exemple qui montre que des fois, on parle des deux côtés de la bouche, on est conscientisé, on va marcher pour l'environnement, on applaudit Greta, mais quand vient le temps de faire notre petit bout, on fait comme, bon, ben là, regarde, hein, qui s'arrange? Je sais pas si vous... Moi, je vous lance là-dessus. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Puis d'abord, je pense que nos amis, ils ont besoin de votre aide aussi. Est-ce que ça vous tente de participer à leur campagne de financement? Je vous explique tout ça après la pause. Pour nous joindre, 514-790-9850. S'il y a des alpinistes parmi notre public, appelez-nous si vous avez déjà été témoin dans votre environnement. Là, ça peut être... une petite montagne ici, un mont ici. Si vous allez en forêt, si vous allez vous promener, que vous faites de l'activité dans le bois et que vous avez été témoin de choses comme ça qui vous ont fait un peu tiquer en non-respect de l'environnement, c'est ça que je veux vous entendre. De l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Ben, des alpinistes qui ont vaincu des montagnes inégalées, il y en a beaucoup au Québec. Vous savez qu'on est très fervent de ce sport. Isabelle Lauzier et Dominique Asselin sont des membres fondateurs d'un groupe qui s'appelle High Altitude Mountain Cleaners. Moi, je les appelle les nettoyeurs de montagne. C'est ce que vous faites, en fait. Et là, vous proposez aux gens de vous aider à aller nettoyer une montagne qui est assez fabuleuse, hein, qui fait partie de la chaîne des Himalayas.
Oui.
En fait, elle est au Népal, pas très loin de l'Everest. La montagne s'appelle Lama Dablam. Et bon, vous allez au camp de base de l'Everest, c'est ça? Puis après ça, c'est où exactement?
C'est un peu avant l'Everest. Dans le fond, c'est dans ce qu'on appelle la vallée du Khumbu. Et les gens qui font généralement tous les treks au Népal ou qui passent par le camp base d'Everest, c'est une des montagnes qu'ils voient tout au long du trek. Cette montagne-là, en plus, elle a gagné le prix de la plus belle montagne au monde. Il y avait un concours dans les années 50, puis ça a été nommé la plus belle montagne au monde. Elle est extrêmement verticale. Dans le fond, son vrai nom, c'est la Dame Blanche, dans le fond. Donc, elle a comme deux bras ouverts. Et le Dablan, c'est le glacier suspendu. Dans le fond, ça serait son collier.
Oh, wow.
Donc, c'est vraiment une montagne aussi pour les communautés. Tous les villages népalais, dans le fond, sont situés autour de cette montagne-là.
On peut-tu y aller avec vous?
Ben, on a des gens
on
sur
part le 21 mars.
C'est ça, vous partez le 21 mars.
Une montagne qu'on va souvent. On est encore en train de réfléchir. Est-ce qu'on va retourner en 2021 sur cette montagne-là?
Ce serait une bonne idée. Ben oui.
On y pense. On sait qu'on veut continuer l'OBNL par la suite. Donc, il y a des réflexions à savoir aussi là, en 2022, est-ce qu'on n'irait pas sur un autre 8000 mètres qu'on sait qu'il y a des problèmes, mais qui ne reçoit pas d'attention.
Complètement. Ouais. Il y a quelque chose là, c'est sûr. Avec nous, quelqu'un qui connaît bien les montagnes, qui a pu voir aussi ce que les autres avaient laissé avant sur leur passage chez l'alpiniste Monique Richard. Bonjour, Monique.
Bonjour Isabelle.
On s'est parlé, je pense, l'année dernière, parce que vous n'avez pas froid aux yeux, Monique. Hein? Vous êtes une alpiniste expérimentée. Vous avez réussi à atteindre en solo le sommet du Mont Logan au Yukon, 6000 mètres hein, quasiment. Vous êtes la première femme d'ailleurs à avoir réussi ce grand exploit. Bravo encore. Vous avez pu témoigner vous aussi de ce que vous avez vu, entre autres au Népal. Hein?
Oui, c'est ça. Il y a des montagnes plus pires que d'autres. Oui, au Népal, c'est sûr que plus que du monde, comme l'Everest, par exemple, évidemment, il y a plus de déchets. Il y a des pays, par exemple, comme en Alaska ou Yukon, où c'est beaucoup plus propre. Il y a des règles beaucoup plus encadrées.
Ah, on serait plus propre. Le Yukon, évidemment, bon, c'est au Canada. Est-ce qu'on a des règles? Est-ce qu'on est plus respectueux, vous diriez, les alpinistes québécois, canadiens? Est-ce qu'on est plus conscientisés que d'autres?
Je pense que les déchets viennent avec le style aussi.
Ouais.
Beaucoup des montagnes qu'on utilise, que ce soit en Amérique du Sud ou ici, on va le faire plus à ce qu'on appelle style alpin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cordes qui sont installées en permanence. Et donc, ça prend des gens qui ont un peu plus d'expérience.
Mm-hmm. Et Monique, vous en pensez quoi, vous?
Ben c'est sûr. Puis, il n'y a pas de bouteille d'oxygène non plus, comme sur l'Everest.
Ah, ben
que
oui.
Les gens, en fait, c'est que, bon, à 7000 mètres, les gens sont fatigués. Mm. Puis là, ben ils vont se débarrasser du poids qui est de trop, malheureusement. C'est vraiment dommage parce qu'à un moment donné, il y a tellement de monde qui passe par là que là, ça s'empile. Puis, mais bon, je pense que les gens deviennent de plus en plus conscientisés, comme par exemple Isabelle et Dominique. C'est très bien qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est une bonne chose. Il y a de l'espoir.
Bon, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Monique Richard, alpiniste. Benoît Pierre est également alpiniste. Vous avez fait beaucoup de sommets, Benoît Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour.
En effet, j'ai fait pas mal de sommets en Europe ce coup-ci, dans les Alpes françaises et suisses. Et j'ai été très sensibilisé par le témoignage que je viens d'entendre, parce qu'effectivement, vous l'avez vu au Népal, mais dans les Alpes également, c'est... Ouais. C'est une poubelle à ciel ouvert, malheureusement. Et ce que vous faites au Népal, c'est extraordinaire. Ça devrait être fait dans toutes les chaînes de montagne parce que beaucoup, beaucoup de gens se laissent traîner littéralement.
C'est incroyable.
Et pour l'exploit Facebook ou Instagram, il y en a qui vont jusqu'à monter des rameurs au sommet du Mont Blanc, qui n'y arrivent pas forcément parce que c'est extrêmement fatigant, et qui abandonnent leurs rameurs en place.
Des rameurs comme pour se mettre en forme, là. Ben voyons.
Oui,
donc.
Oui, ouais. Littéralement.
Ouais.
Je suis certain que vos invités connaîtront, mais l'observatoire Valo sur la route du Mont Blanc est une vraie poubelle. C'est absolument, inhabitable tellement les gens se laissent et vident leurs poubelles.
Incroyable.
C'est malheureux. Mais... Et donc, je félicite vos invités de cette initiative à laquelle j'aurais bien participé, mais malheureusement, ma carrière alpinistique est terminée suite à un accident.
Oh, ben, je suis désolée d'apprendre ça, mais Benoît-Pierre, vous pouvez encourager nos amis. Merci de votre témoignage. Isabelle, Dominique seront accompagnés de Vincent Marcil, Daniel Lajoie et d'autres gens qui les amènent dans cette expédition. Si vous voulez, vous pouvez acheter un ancrage à votre nom qui va être installé sur la montagne. Vous pouvez faire un don. Vous allez sur la page Facebook High Altitude Mountain Cleaners. Je vais le partager sur mon Facebook. Je le mets là, dans quelques minutes, pendant la pause tout à l'heure, tiens. Et puis, vous pourrez les aider. Il y a aussi un encamp silencieux jusqu'au 14 mars. Et puis, bien sûr, il y a le départ le 21. Benoît nous appelle. Benoît, bonjour. Je pense que vous faites partie d'une entreprise qui va souvent au Groenland.
Oui, je travaille pour des gagnés transarctiques. Nous, on va au Nunavut jusqu'à Grisfjord.
Oui, qu'est-ce que vous faites, transarctique? Vous faites quoi comme, c'est quoi comme compagnie?
Moi, je suis vérificateur sur les bateaux. On livre toutes les vives dans le Grand Nord, dans des villages qui voient le bateau une fois par année.
Oh mon Dieu!
Puis juste pour vous dire, je ne comprends pas que les alpinistes ne sont pas capables de ramasser leur stock parce que nous, on est un bateau. On ramasse toutes nos vidanges, zéro déchet. Et puis en plus, j'étais à une mine de fer l'année passée à Baffinland, la plus grosse mine de fer au monde. On a ramené tous les excréments, les vidanges, jusqu'à les huiles usées parce qu'ils ne peuvent rien filer là-bas. Faudrait que les alpinistes, là, après faire place de se péter bretelles, là où elle montait, ils devraient regarder la nature puis essayer de la respecter.
Mais
parce
tellement.
Chez des gagnés, c'est ça le point numéro un, c'est de garder l'environnement propre puis d'essayer de zéro déchet. Puis on l'a fait cette année sur 3-4 bateaux.
Ah ouais. C'est quoi les bateaux? Quelle sorte de bateaux? C'est-tu des gros cargos?
C'est des gros bateaux. Là. Ils rentrent à peu près 700 000 tonnes sur un bateau.
Wow.
On livre, là. Si vous voulez, Isabelle, allez voir. Ça vient de finir, la série à CBC. C'était High Arctic Haulers.
Ah oui, OK.
Puis tu vois, là, moi, c'est ma première année. Je suis allé l'année passée. J'ai vécu... ça m'a pris 40 ans de me trouver une vraie job. Je peux te dire que là, je suis heureux. Puis quand je remets le cargo à du monde qui voit le bateau une fois par année, puis tu regardes avec les yeux pleins d'eau, là, ça, c'est...
Ouais, puis vous faites quoi, vous? Vous faites quoi sur le bateau, Benoît?
Moi, je suis vérificateur en chef. Tout ce qui débarque, qui embarque du bateau, moi, je le vérifie, je fais signer les gens.
Okay.
C'est vraiment une expérience. Si jamais, Isabelle, tu veux visiter un bateau, là,
on est au
port de Sainte-Catherine.
Ah, okay? Ouais.
Mm-hmm. Puis, si tu veux, je vais appeler, moi, je vais laisser mes coordonnées.
Mais oui, c'est certain. Oui, moi, j'adore les invitations généreuses comme ça. Merci, Benoît. Mais c'est fort intéressant. Ben merci beaucoup, mon Dieu, il est fin. Vous m'invitez pas, vous, à aller à votre expédition?
À 2021, si tu veux.
Avec grand plaisir. Vous savez, c'est dans ma checklist.
Parfait.
Faire au moins le camp de base de l'Everest.
C'est correct, on le fait. Ouais. On offre le camp de base, fait qu'on... Tu viendras en 2021.
J'adorerais ça. Il y a des... Bon, évidemment, on fera pas comme ceux qui sont pas propres, hein, les malpropres, faut le dire. On n'aime pas ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette expédition. Je trouve ça vraiment fabuleux de prendre l'initiative que vous avez prise de nettoyer des montagnes comme ça. Puis je souhaite que votre organisation reste. Donc, c'est Attitude Montagne aussi, hein,
oui.
Isabelle? Vous avez une organisation qui s'appelle Attitude Montagne. Exact. Puis vous faites quoi? Donc, vous faites des...
C'est tous les voyages de haute montagne, formation, initiation.
Donc, quelqu'un qui veut s'initier à l'alpinisme,
oui.
On passe par vous?
Exact.
Oui. Parfait. Ouais, ben merci beaucoup à tous les deux. Et puis, bonne... Comment on dit à des alpinistes?
Ramassage.
Ouais, bonne corvée. c'est bonne cordée et
ouais.
Bonne corvée.
Ah, voilà. On préfère un jeu de mots.
Isabelle Lauzier, Dominique Asselin, merci beaucoup. Puis, bonne route. Vous nous donnerez des nouvelles à votre tour. Vous nous direz qu'est-ce que vous avez ramassé.
Merci,
on s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois en entrevue sans filtre la comédienne Laurence Leboeuf. À tout de suite.